surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Chers auditeurs de Bana Okapi, bonjour. L'importance de l'enseignement technique et professionnel pour le développement et la croissance économique d'une nation n'est plus à démontrer. La République démocratique du Congo regorge de potentiel, mais peine à décoller économiquement. L'une des raisons, une pénurie criante de main-d'œuvre qualifiée. Alors que le pays occidentaux regarde vers l'Afrique pour dénicher des artisans compétents, la RDC, elle, semble négliger ses propres filières techniques et professionnelles. Maçonnerie, plomberie, pêche, électricité, mécanique auto, ces métiers essentiels pourtant indispensables au développement du pays sont souvent dévalorisés, relégués au rang de voie des garages pour les élèves le moins performants. Un préjugé ténace qui éloigne les jeunes des formations techniques et compromet l'avenir de la RDC. Quel état des lieux faire de la situation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans le pays? Comment inciter les jeunes à s'intéresser aux métiers techniques? Quelle stratégie mettre en place pour revaloriser ces filières et former la main-d'œuvre de demain? Votre magazine Bana Okapi se penche sur cette problématique cruciale. Ne manquez pas cette émission exceptionnelle. Sarah Sumbela est à la présentation de ce magazine. Alain Goyer du côté de la technique, Christian Mapenda Nouyakris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijano. Le magazine Bana Okapi se lance.
Okapi, Metabendi Yamani.
Les amis de Bana Okapi, ce magazine prend son envol dans les rues de la capitale à Kinshasa. Rencontre avec ce jeune qui ont osé défier les idées reçues et embrasser l'enseignement technique. Parmi eux, des passionnés qui ont suivi leur instinct et d'autres guidés par les conseils de leurs proches. Des parcours différents mais une même détermination, réussir et montrer que le métier technique sont aussi une voie d'excellence. Grâce au réseau Loa recueilli, leurs témoignages, on écoute.
Bonjour Maria.
Bonjour.
À quel métier aspires-tu?
J'aspire sur l'entrepreneuriat parce que j'adore créer et créer, c'est pour aider mon peuple à se développer.
Je m'appelle Mbombo. Mon métier c'est hôtellerie, premièrement parce que j'aime ça et j'aime construire des hôtels. Et ça me permettrait quand les gens viennent, les étrangers viennent et passent l'air de tente dans notre hôtel.
Bonjour, je réponds au nom de Mouleba. J'aspire de devenir gestionnaire parce que gérer, il faut savoir gérer dans la vie, de peur d'avoir d'abord des escrocs. Parce que quand on a des gens qui ne gèrent pas bien, nos entreprises peuvent tomber en faillite. C'est pour cela que j'aspire de devenir une très bonne gestionnaire.
Bonjour, je me nomme Esther. J'aimerais bien être dans les filières informaticiennes. C'est parce que j'aime trop ça, créer, saisir des documents, avoir le cyber et pour aider le pays et le peuple et les comptables de notre pays.
Bonjour, moi c'est Ben. J'aspire à devenir modéliste. J'aime devenir modéliste parce que j'aime créer. C'est la place où je me sens à l'aise, là où je peux créer mes propres modèles, me sentir à l'aise, faire habiller des gens, des grandes stars.
Bonjour, moi c'est Iwebe. J'ai choisi l'option coupe-couture parce que j'aime bien coudre, confectionner, faire de tout, parce que j'aime devenir modéliste, créer, habiller le monde. Donc c'est ça que moi j'aime.
Bonjour, je m'appelle Plamedi. J'ai choisi la commerciale et gestion pour devenir premièrement entrepreneur, pour devenir indépendante et créer des emplois.
Je m'appelle Labron. J'ai choisi l'option commerciale pour devenir économiste et gérer l'économie d'un pays.
Je m'appelle Daniel. Je suis un électricien. J'aimerais être un ingénieur pour faire des installations.
Bonjour, je m'appelle Jétro. J'ai choisi de faire l'option électricité pour devenir un grand électricien industriel, aider le monde sur les manières électriques et construire des maisons, faire des montages pour rendre les pays meilleurs.
Moi, je m'appelle Ben. Moi, j'ai choisi l'option commerciale pour devenir un jour comptable. Ça aiderait aussi le pays à mieux se développer dans l'économie financière et j'ai toujours aimé la comptabilité, je maîtrise très bien les chiffres.
Pourquoi ne pas choisir un métier tel que la plomberie, cordonnerie, la mécanique auto ou générale?
Premièrement, nous devons
devons être libres de choisir ce qu'on veut et nous devons avoir un moyen où on se sent à l'aise dans ce qu'on fait. Parce que parfois, on peut faire quelque chose dont on se sent pas à l'aise et ça finit toujours par tomber.
Pourquoi j'ai choisi l'électricité? Parce que l'option qu'on doit choisir, c'est une option qui doit être propre à nous-mêmes. Que comme on fait sans se soit à l'aise et qu'on sache qu'on a la bonne maîtrise sur ces métiers.
Moi, je n'ai pas choisi d'autre option parce que je ne maîtrise pas bien. Je ne me suis jamais senti à l'aise quand on m'apprend quelque chose qui n'est pas hors la comptabilité. Donc, je n'ai jamais voulu travailler d'autre chose que la comptabilité.
Premièrement, parce que les options techniques aident aussi le pays ou le monde entier à évoluer. Déjà, ils ont un esprit créatif. Dès qu'ils finissent, ils savent quoi faire au cas où ils ne trouvaient pas d'emploi. Et ils ont toujours des belles idées et de belles créations derrière la tête. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de le faire.
J'ai pas choisi d'autre option premièrement parce que j'aime servir. En hôtellerie, on sert. Ça nous sert à parler avec des gens, se communiquer. Bah, avec d'autres options, on peut se communiquer, mais je me sens à l'aise avec hôtellerie.
Penses-tu que si tu choisissais un des métiers cités, hein, par exemple, je cite la plomberie, la mécanique auto, la maçonnerie, tes parents devraient te soutenir ou t'accompagner?
Là, oui, en quelque sorte, mais à condition que ça ne puisse pas intervenir parce qu'il y a d'autres options quand vous choisissez tellement qu'il y a d'autres élèves qui sont là juste pour influencer les autres dans le mal, c'est ce que les parents détestent. C'est en raison pour laquelle il y a plusieurs parents en Afrique qui refusent d'envoyer leurs enfants dans des options techniques. Mais quand les parents ont confiance à leurs enfants, ça serait acceptable.
Oui, si moi j'étais parent, mon enfant vient avec je vais être plombier, j'accepterais si seulement ça le permettrait d'avancer dans la vie.
Oui, c'est pas mal parce que dans ces jours, il y a des parents qui refusent, mon enfant ne peut pas faire l'option technique parce que c'est soi-disant pour de bêtes. Et moi, je mets un point sur ce que les parents de nos jours peuvent dire. Nous avons le choix, nous avons des capacités. Ne croyez pas quand nous sommes en technique, nous ne sommes pas capables. Nous avons cette possibilité d'être de grandes personnes, mais on doit se sentir d'abord à l'aise.
Pourquoi on fait ces options techniques? Parce que le monde maintenant est occupé à 70% de la technique. L'avenir nous appartient à nous les techniciens. C'est pourquoi même si mon enfant il me disait que non, je vais faire une option technique, je le soutiendrai à 100% toujours.
Oui, c'est normal que nos parents nous soutiennent à ce que nous choisissons. Mon père m'a dit une fois, tout est possible, c'est question de volonté. Si tu acceptes de faire un truc, on sera là pour te soutenir. C'est normal pour un parent de soutenir son enfant pour le bien de sa vie.
Moi, mon père m'avait dit que les options techniques, ça nous aide parce que quand nous allons finir les écoles humanité, nous aurons un peu la facilité parce que quand déjà tu maîtrises, exemple, la comptabilité et quelques cours, ça te faciliterait la tâche d'être secrétaire dans une entreprise. Mais les autres parents n'aiment pas que leurs enfants puissent faire l'option technique parce que nous-mêmes, les techniciens, nous devons avoir un esprit de discipline. Parce que quand nous ne sommes pas disciplinés, nous donnons aussi un mauvais exemple aux parents. Mais quand nous sommes disciplinés, ça ferait assez que les parents puissent avoir confiance à nous, les techniciens, et envoyer aussi leurs enfants auprès de nous pour apprendre, faire des options commerciales, hôtellerie, ainsi de suite.
Il y a une personne qui vous a motivé de s'inscrire dans une école technique. C'est vos parents, ça vient de vous-même, votre entourage, ou c'est qui précisément?
Mon père qui m'avait sollicité de faire la commerciale et je l'ai accepté. Bon, quand je l'ai accepté, j'ai visé qu'un jour je deviendrai entrepreneur. Je créerai plusieurs choses qui permettra aux Congolais d'avoir le pouvoir d'achat, d'acheter et mieux vivre.
Moi, c'est ma sœur. Premièrement, moi, je voulais être une avocate, je voulais faire la littéraire. Ma sœur m'a dit que si tu fais la littéraire pour avoir de boulot, ça sera un peu difficile. Pour le moment, c'est les métiers techniques qui comptent et j'avais accepté. C'était un peu difficile pour un moment. Quand j'ai commencé à étudier, j'ai trouvé que l'hôtellerie, c'était mieux. Moi, c'est mon père qui m'a inspiré à faire de l'option commerciale. Normalement, je devais faire la scientifique. Mais mon père me disait que quand tu vas faire la commerciale, ça va te faciliter la tâche au futur parce que il faut d'abord regarder le concours de votre pays, comment est-ce que ça va. Parce que quand tu fais une option technique, ça te facilitera d'avoir un travail plutôt quand tu vas être docteur, avocat. Ce sera un peu difficile. Comme quand tu fais l'option commerciale, ça va te faciliter un peu au futur. C'est mon père qui m'avait inspiré.
Moi, c'est mon père aussi qui m'avait aidé à faire cette option commerciale. Moi-même, je préférais de faire la scientifique, mais c'est mon père qui m'a poussé de faire la commerciale. C'est parce que la commerciale, même si je suis de 6, je peux avoir un travail.
Moi, c'est ma mère qui m'a inspiré à faire la couture parce qu'elle m'a expliqué, elle m'a dit qu'avec la couture, j'ai le moyen de que je termine
ou bien même en sixième quand je fais mes études, de créer, de gagner de l'argent à l'université, de toujours créer, qui va me permettre à payer parfois des syllabus. Tout ça, j'ai la facilité d'être indépendante.
Moi, c'est ma mère qui m'a forcé de faire l'option coupe-couture. Moi, je n'aimais pas vraiment la coupe-couture. Et au début, je ne maîtrisais pas ça. Je m'aimais bien pour moi faire la scientifique. Ma mère, comme elle m'a expliqué, elle m'a dit, mieux vaut faire l'option technique comme commercial, coupe-couture. Donc, je n'avais pas d'autre choix d'accepter la coupe-couture. Selon moi, je préférais faire l'électricité. Ma mère m'a dit, avec l'électricité, ce n'est pas mal de faire ça. Mais puisque dans notre famille, il y a déjà beaucoup de gens qui font déjà l'électricité, ça serait mieux pour moi de faire la coupe-couture parce que je faisais déjà de petits vêtements pour mes poupées quand j'ai joué. Donc, j'ai vraiment bien maîtrisé la coupe-couture.
Moi, c'est mon père qui m'a inspirée à faire la commerciale pour devenir premièrement indépendante, entrepreneur pour pouvoir gérer des choses à son absence.
Mon inspiration, c'est moi-même parce que dès le bas âge, j'aimais bien vendre des choses, des trucs et mon frère m'a guidée à faire l'option commerciale pour devenir commercialiste.
Ouais, moi aussi, c'est mon père qui m'a inspirée. En fait, j'aimais pas vraiment l'option commerciale. Je voulais faire littéraire. Quand j'écoutais comment les latinistes parlaient très vite les français, très bien les latins, j'adorais vraiment. Mais mon père m'a dit non, tu vois, les latinistes, c'est bien, mais pour travailler, tu dois continuer jusqu'à l'université. Mais quand tu choisis l'option commerciale, tu peux déjà commencer à travailler. Quand tu as des dons diplômés en commercial, tu peux déjà commencer à travailler. Ça peut t'aider aussi à être indépendant. Tu auras déjà de l'expérience.
Mes très chers amis et collègues, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il y a tout métier, mais la technique, c'est la meilleure. Parce que si nous regardons actuellement, ce sont plus les techniciens qui aident au monde à évoluer. Alors, je vous dirai de faire la technique, parce que c'est pour votre avenir.
Après avoir suivi les jeunes, la parole revient aux parents pour des témoignages poignants entre la vie d'accompagner leurs enfants et les préjugés ténaces liés aux métiers techniques. Commençons avec cette mère de famille qui estime que les parents devraient accompagner leurs enfants dans leur vision et non leur imposer leur propre volonté. Elle est au micro de Sulamit Kipuni.
Madame Nanette King, éditrice générale du magazine Le Grand Salon des Leaders, bonjour. Aujourd'hui, Banao Kapi traite la thématique sur comment pousser les jeunes à s'intéresser et à s'orienter vers l'enseignement technique. Alors, quelles sont vos attentes pour l'avenir de vos enfants? La réussite scolaire, la stabilité professionnelle et sur l'épanouissement personnel.
Bonjour madame. Mes attentes pour l'avenir de mes enfants et qu'ils réussissent, je dirais dans tout le plan, oui. Sur le plan scolaire, qu'ils aient la stabilité, sur le plan professionnel, et qu'ils épanouissent. C'est ça mes attentes pour l'avenir de mes enfants. Et là, je travaille là-dessus, on les encourage à étudier d'abord, mais aussi à les apprendre certaines choses de la vie, pas seulement les études. Parce que la vie, à un moment, il n'y a plus des études, à un moment, dans la vie, on doit vivre, n'est-ce pas, ce qu'on a sémé, on doit récolter, comme jadis la réussite, une vie professionnelle réussie, et l'épanouissement personnel et tout ça, c'est également inclus dans cette réussite. Quand nous parlons de la réussite pour nos enfants, ça inclut toutes ces choses.
Comment encouragez-vous vos enfants à réfléchir à leur orientation? Vous le faites par une discussion, par des recherches, par des visites?
Moi, personnellement, je parle à mes enfants, je les accompagne dans leur vision. Vous savez, madame, les enfants ont une vision que parfois, nous parents, nous ne comprenons pas parce que souvent, le parent, nous avons cette habitude d'imposer à nos enfants nos choix et notre volonté. L'accompagnement, c'est autre chose qu'une imposition de nos volontés ou de nos choix à nos enfants. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je les amène d'abord à ces niveaux de compréhension. Je les amène à être capables de choisir ce qui est bon pour eux. Je les apprends les choses positives dont ils ont besoin pour faire leur choix personnel dans la vie plus tard. C'est comme ça que je les oriente. Je les amène à réfléchir sur leur choix, parce qu'en fin de compte, c'est leur vie, c'est eux qui décideront un jour de ce qu'ils veulent en réalité
être et moi, je ne fais que les accompagner.
Que pensez-vous de l'enseignement technique?
Je pense que l'enseignement technique est meilleur. Cela devait être inclus dans nos écoles. Pourquoi pas dans les universités également, parce qu'il y en a des universités techniques aussi. Mais cet enseignement devait l'État congolais, puisque l'État congolais devait promouvoir l'enseignement technique dans tout son territoire.
Pouvez-vous encourager vos enfants à suivre l'enseignement technique comme la maçonnerie, la plomberie? Si oui, pourquoi? Sinon, quelles seraient vos réticences?
Vous savez, madame, nous les parents congolais surtout, nous avons la plupart, quand je parle de nous avons, je ne dirais pas que c'est un cas général, mais au moins la plupart, je peux dire 90% de parents congolais n'aiment pas que leurs enfants fassent des études techniques. Comme quoi, vous avez donné l'exemple, un parent congolais a du mal à accepter que son fils soit maçon ou plombier, ainsi de suite pour les femmes également. Mais vous verrez, ses parents ont besoin de plombiers, ils ont besoin de maçons pour construire leur maison, mais arriver à leur tour de diriger ou d'orienter leurs enfants vers la technique pour devenir peut-être maçon ou plombier, ils ne sont pas d'accord. Si vous demandez mon avis, madame, je dirais que ce n'est pas mauvais. Moi, je pourrais conseiller à mes enfants. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure à la première question, c'est-à-dire je ne peux pas imposer ma volonté à mes enfants, mais il y a des choses quand même que j'aimerais les présenter, leur montrer l'avantage et les désavantages et les laisser, pardon, faire leur choix. C'est également dans ces cadres-là qu'ils sont libres de choisir de faire des études techniques ou autres. Ça dépend, c'est leur choix, madame. Je ne peux pas les imposer, puisque moi, je n'aime pas la maçonnerie, et que si mon fils disait qu'il voulait devenir maçon, et que je l'empêche, non, non, je pourrais justement les accompagner. Les réticences, ça dépend. C'est comme je disais, on dit qu'il n'y a pas de sous-métiers, il n'y a que des sortes de gens. Beaucoup de parents pensent que la maçonnerie, c'est un travail de moins que rien, des gens qui n'ont pas étudié en fin de compte. Et puis, ils se disent, bon, voilà, je vais faire un métier, je vais apprendre.
Pourquoi les écoles techniques ou écoles des métiers ne sont pas aussi nombreuses?
Justement, madame, c'est pour la même raison que j'ai évoqué si haut. Les écoles techniques ou les écoles de métiers ne sont pas aussi nombreuses à cause de certaines opinions de parents. Ils se disent, je veux que mon fils soit médecin, je veux que mon fils soit avocat, je veux que mon fils soit ingénieur, ainsi de suite. Et du coup, les parents se disent, bon, nous n'allons pas envoyer notre fils dans une école technique ou une école de métier. Mais je peux dire qu'il y a un grand changement actuellement, parce que beaucoup de parents ont compris. Nous, en Afrique, on a beaucoup appris, on a étudié certaines choses que nous n'avons même pas les entreprises sur ça. Nous ne savons pas par où faire des stages sur certaines formations qu'on a réussies à l'école. Et du coup, ça a rendu nos enfants, certains sont devenus paresseux à force de chercher, de travailler, de ne pas trouver.
Pourquoi les jeunes ne semblent pas s'intéresser à ces métiers?
Certains jeunes semblent ne pas s'intéresser au métier. Ils sont dans des rêves, hein. Vous savez, la jeunesse vit beaucoup dans l'illustration, dans des rêves et tout ça. Parce qu'il a vu son ami, a eu l'occasion de partir aux États-Unis par les développeries, ou encore ses parents qui ont de moyens l'ont envoyé pour aller faire des études. Et puis du coup, il dit, je serai comme celui-là. Sans se rendre compte de sa situation familiale, de son rang social, je vais dire. Et du coup, il a des rêves, des ambitions, comme ça, de mesurer. Et vous allez voir, on lui propose d'aller dans une école de métier pour ne pas rester comme ça sans rien faire. On lui envoie pour aller prendre quelque chose et ensuite il pourra trouver quelque chose à faire. Ben, il refuse catégoriquement. Il a ses ambitions, il a son rêve, il ira plus loin. Mais en attendant, il est figé, il est là immobile sans rien faire. Moi, personnellement, j'encourage les jeunes d'aller dans des écoles techniques, dans des écoles de métier pour apprendre. C'est très important pour eux.
Ne pensez-vous pas qu'à l'avenir, nous pourrions manquer de la main-d'œuvre si les jeunes ne s'y intéressent pas?
Justement, si les jeunes ne s'intéressent pas à la technique, nous allons manquer le main-d'œuvre. Vous savez, quand tout le monde veut devenir PDG, quand tout le monde veut être les DG, en fin de compte, qui va servir l'autre? Nous avons besoin de ces jeunes conscients, qui ne sont pas moins que les autres, mais qui sont déterminés à faire les écoles techniques ou de métier, à prendre de métier tout de suite et à commencer à travailler, parce que, vous savez, madame, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont des ambitions démesurées.
Vous allez voir quelqu'un qui n'a même pas encore son diplôme d'État, mais qui te dit qu'il va faire l'université à Osbourg. Une grande vision comme ça dans les airs, dans le vide, au lieu de faire des métiers. J'invite la jeunesse congolaise à s'investir, à faire des métiers, à aller dans l'école de technique, à appliquer pour apprendre en attendant, parce qu'il y a des ceux-là qui ont de grands diplômes, mais qui ne font rien avec ça. Les métiers peuvent t'aider tout de suite à trouver quelque chose à faire dans l'entrepreneuriat, par exemple, être ton propre patron, en attendant les grands rêves de ta vie d'aller travailler dans des grandes entreprises, ce qui n'est pas mauvais, il est permis à tout le monde de rêver, mais parfois il faut se réveiller pour voir la réalité qui est autour de toi. Donc voilà, j'invite vraiment la jeunesse congolaise à s'investir, à se donner à fond, à apprendre des métiers, et pour que nous ne manquions pas de main-d'œuvre dans ces pays. Merci beaucoup, madame.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Chers auditeurs, auditrices et amis à l'écoute, merci de votre fidélité à la fréquence de la paix qui vous propose ce magazine Bana Okapi. Comme vous le savez, ce programme de Radio Okapi est financé par l'UNICEF et traite des sujets liés à la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, l'environnement et la protection des droits de l'enfance. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse et la formation technique. Comment redonner ces lettres de noblesse à l'enseignement technique en RDC? La jeunesse congolaise se détourne de métiers techniques, un constant alarmant qui hypothèque l'avenir du pays. Alors que les filières du droit, de la médecine, du journalisme et du marketing, par exemple, attirent les foules, la menuiserie, la pêche, la mécanique auto et l'agriculture peinent à recruter. Un déséquilibre inquiétant qui met en lumière un manque de valorisation de ces professions pourtant essentielles. Le programme Bana Okapi ouvre le débat. Comment redonner ces lettres de noblesse à la formation professionnelle en RDC? Sarah Sumbela est à la présentation de ce magazine. La mise en onde est assurée par Alain Goy, Christian Mapenda-Noya, Chris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matuaki Mofelele Dijano. Commençons donc cette seconde partie.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Amouré du magazine Bana Okapi, votre magazine se poursuit. Après avoir suivi dans la première partie les témoignages d'une mère sur l'orientation des enfants vers les filières techniques, nous donnons la parole cette fois-ci à un père de famille. Pour Monsieur Thomas Lévaux, conseiller en formation et insertion professionnelle, il est essentiel d'échanger avec les jeunes sur leurs aspirations et de les accompagner dans leurs choix. Il encourage vivement les métiers techniques qui, selon lui, sont un vecteur de développement pour les pays et un moyen de rapprocher les populations rurales et urbaines. Il s'entretient avec Sulamit Kiponi.
Bonjour Monsieur Thomas Lévaux, vous êtes conseiller en formation et insertion professionnelle à l'INPP Boma. Aujourd'hui, Bana Okapi traite la thématique sur comment pousser les jeunes à s'intéresser et à s'orienter vers l'enseignement technique. Alors, quelles sont vos attentes pour l'avenir de vos enfants sur le plan de la réussite scolaire, la stabilité professionnelle et l'épanouissement personnel?
Nos attentes par rapport à l'avenir de nos enfants, nous aimerions qu'ils aient une stabilité professionnelle, c'est-à-dire qu'ils fassent de bons choix de leurs études pour qu'ils puissent apprendre, selon moi, les métiers qui les permettent d'être stables dans leur vie prochaine.
Comment encouragez-vous vos enfants à réfléchir à leur orientation? Vous les faites par des discussions, par des recherches ou par des visites?
Non, par des discussions. En discutant avec eux, on a la possibilité de parler face à face. Ils peuvent émettre leurs avis et on peut en discuter et on peut les aider à orienter selon qu'ils font des choix. Ils peuvent le permettre de réussir ou non.
Que pensez-vous de l'enseignement technique?
De l'enseignement technique, nous pensons que c'est un enseignement qui rapproche le milieu naturel et qui vise à satisfaire les divers besoins immédiats de la population. Mais aussi, il constitue les chaînons auxiliaires entre la population rurale et urbaine. Une filière pour la formation de la main-d'œuvre qualifiée et à des aptitudes techniques et professionnelles éprouvées. Dans ce cadre-là, il permet à la jeunesse ou encore aux élèves qui sont exclus dans les différents secteurs de la vie nationale à participer activement dès l'âge scolaire ou de l'adolescence à la production et au développement du pays. Parce que on suppose que depuis l'époque coloniale, l'importance de cet enseignement a été soulignée. Encore un enseignement technique bien structuré présenterait des avantages comme procurer un métier ou une profession, donner l'accès directement à la vie professionnelle, c'est créer l'autonomie et la responsabilité déjà dès le bas âge. On peut se procurer de l'honneur et les statuts. La liberté est une discipline qui suscite un engagement. Voilà, je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à cette question.
Pouvez-vous encourager vos enfants à suivre l'enseignement technique comme la maçonnerie, la plomberie? Si oui, pourquoi? Et sinon, quelles seraient vos réticences?
Bien sûr que nous les encourageons, et non seulement nos enfants, mais aussi les jeunes et les élèves qui terminent les études. Surtout que nous sommes à l'INPP, je suis conseiller en formation et insertion professionnelle. Nous encourageons les jeunes à prendre le métier, comme vous l'avez cité là, la plomberie et la maçonnerie. Aujourd'hui, on a la facilité d'avoir des moyens, non seulement pour soi, mais dans le développement aussi du pays. Aujourd'hui, si on n'a pas des maçons, nous ne savons pas construire. On va faire venir la main-d'œuvre extérieure qui va nous fabriquer, par exemple, des choses dont nous appelons, par exemple, les maisons fabriquées. Alors que si nous avons nos propres maçons, nous avons la facilité de construire parce que nous avons encore cette possibilité.
Pourquoi les écoles techniques ou écoles de métiers ne sont pas aussi nombreuses?
Les écoles techniques sont d'ailleurs insuffisantes actuellement chez nous dans le pays. Elles sont moins fréquentées, passéistes, mal équipées en matériel et personnel enseignant de qualité. Certaines sections d'ailleurs qui forment des auxiliaires aujourd'hui dans le cycle des cours, telles que la section qui forme des infirmiers A3, ceux qui met les opérateurs de dactylographie, des D4, sont en train même de disparaître. D'où l'enseignement technique souffre d'un préjugé défavorable et d'incompréhension de la part des élèves et des parents. Donc c'est un problème des élèves et des parents, non seulement aussi du gouvernement. Les quelques rares écoles techniques qui fonctionnent sont abandonnées, presque abandonnées, n'ayant ni matériel didactique, ni laboratoire, ni atelier qui servent de sites d'application et d'entraînement pratique. Les conditions dans lesquelles fonctionnent ces écoles-là ne peuvent rendre ni rentables ces écoles ou les pays, ni attrayantes pour les élèves et les parents.
Pourquoi les jeunes ne semblent pas s'intéresser à ces métiers?
Les jeunes ne semblent pas s'intéresser à ces métiers. Je viens de le dire. Comment pouvez-vous vouloir une personne aller dans une école où ça ne l'attire même pas? Il veut faire un métier, mais quand il arrive dans cette école, il n'y a pas de matériel. Il n'y a rien qui l'aide pour acquérir sa pratique. Mais aussi, c'est un problème d'orientation scolaire. Dans les temps, il y avait dans les écoles, c'est pas une section qu'on appelait orientation scolaire. Aujourd'hui, ça n'existe plus dans les écoles. Donc, pour aider ces enfants-là, il faut les orienter professionnellement.
Ne pensez-vous pas qu'à l'avenir, nous pourrions manquer de la main-d'œuvre si les jeunes ne s'y intéressent pas?
Bien sûr que oui. Si les jeunes ne s'intéressent pas à la formation technique, nous pouvons manquer de la main d'œuvre. Nous en manquerons certainement. C'est pourquoi il faut donc dans tous les niveaux, que ce soit au niveau des élèves ou les jeunes, les apprenants, il faut les motiver, il faut les sensibiliser à suivre cette formation-là, sensibiliser aussi les parents. mais aussi que le pays puisse mettre à la disposition de ces élèves-là des écoles attrayantes qui les attirent, où il y a du matériel didactique qui les aide à faire leurs pratiques pour qu'ils acquièrent les métiers dont ils ont besoin.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, M. Thomas Lévo.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
L'enseignement technique en RDC est en train de prendre son essor. De nombreux établissements scolaires proposent des filières variées, de la coupe couture à l'industrie agricole, en passant par la nutrition, l'électricité, la mécanique, l'hôtellerie ou encore l'électronique. Les autorités scolaires encouragent vivement les jeunes filles et garçons à s'inscrire massivement dans ces sections techniques, car ce sont eux qui construiront l'avenir du pays. C'est un appel de Richard Mukelenge Mungay, préfet des études au lycée technique Bomengo à Kinshasa Njili. Ils s'entretiennent avec Grâce Vuezolo. Suivez.
Monsieur Richard Mukelenge Mungay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes préfet des études au lycée technique Bomengo à Kinshasa depuis 1978. Ça fait pratiquement 46 ans depuis que vous êtes chef d'établissement préfet des études. Alors, quelles sont les options qui sont organisées dans votre établissement scolaire, monsieur le préfet?
Au lycée technique Bomengo, nous avons trois options. L'option mère qui est la coupe et couture. Nous avons aussi la nutrition. Et enfin, nous avons l'industrie agricole. L'industrie agricole, je l'ai trouvé aussi, mais il n'y a pas longtemps que cette option existe dans notre pays. D'ailleurs, nous sommes à Tsangu, la seule école qui organise cette option-là. Et dans la ville de Kinshasa, il n'y a que notre école et l'Institut Mumbele, malheureusement, peu connu par le monde. Donc, il y a très peu d'élèves qui viennent là-bas. C'est une nouvelle option, mais qui est très, très bonne.
Comment fonctionne votre école sur le plan pédagogique, monsieur le préfet?
Sur le plan pédagogique, notre école fonctionne comme toute autre école organisée pour la pédagogie. Nous avons le directeur des études qui est là et le conseil pédagogique qui tient la pédagogie à côté du préfet, et nous avons des unités pédagogiques qui sont nos unités de travail. Chaque semaine, les unités pédagogiques se rencontrent et nous faisons marcher l'école de cette manière-là. Les professeurs sont réguliers, ce sont des professeurs spécialisés dans les branches que nous avons ici. Nous avons deux vacations, l'avant-midi et l'après-midi. En dehors de la coupe-couture, de l'industrie et de la nutrition, nous avons des classes de secondaire générale, c'est-à-dire nous avons des classes de 7e et 8e que nous préparons aussi pour les humanités. Nous avons au total 26 classes. Cette année, nous avons plus ou moins 1011 élèves dans l'ensemble. Les années passées, il y avait un pléthore, mais nous avons réduit l'effectif pour avoir la qualité. Les élèves sont très nombreux en coupe et couture. Ce sont des filles. Elles aiment la coupe et couture.
Avez-vous beaucoup d'élèves garçons qui s'inscrivent dans les différentes sections organisées chez vous?
Bon, nous n'avons pas beaucoup de garçons parce que l'école étant une école de filles depuis trop longtemps, les garçons viennent timidement. Mais petit à petit, le nombre augmente parce que nous avons maintenant des élèves garçons même au niveau de 7e ou 8e. Mais ils ne sont pas nombreux. Les filles pratiquement font la majorité. 90% au moins sont des filles.
Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour attirer les garçons de pouvoir s'intéresser aussi aux sections techniques que vous avez organisées comme coupe et couture et autres?
Bon, les garçons, nous les encourageons à venir. C'est-à-dire quand nous faisons nos sélections, c'est-à-dire pendant les inscriptions, nous recevons tout le monde. Et nous faisons des communiqués pour dire que l'école est maintenant mixte. Que les garçons viennent aussi. Paroisse, mais partout là, nous faisons des communiqués. Que les garçons viennent nombreux et sans complexe.
Avez-vous des matériels nécessaires pour la formation des élèves?
Bon, je peux dire oui. Pour la coupe et couture, nous avons un atelier. L'atelier est équipé. Nous avons aussi du côté de la nutrition, nous avons du matériel. Nous avons assez de matériel. Sauf que du côté de la coupe et couture, nous avons besoin d'un deuxième atelier. Parce que les élèves sont très très nombreuses les filles. Alors nous avons un atelier par exemple qui a au moins 45 machines à coudre. Mais c'est toujours insuffisant par rapport à l'effectif. Nous sommes en train de chercher aussi à ajouter. Évidemment, nous demandons toujours l'apport extérieur, des autorités, n'importe qui, des gens de bonne volonté pour nous aider à équiper l'école davantage.
Et pour la nutrition, vous avez acheter quel matériel, par exemple?
Pour la nutrition, il y a beaucoup de matériel. Hein. Par exemple, nous avons un congélateur, nous avons beaucoup de machines à faire la cuisine, à faire des aliments, nous avons des thermomètres, il y a beaucoup de machines, des transomètres, nous en avons.
Alors, comment s'est fait concrètement la pratique dans votre établissement scolaire?
Maintenant, la pratique s'est fait selon les niveaux, à partir de la première année. Par exemple, nous prenons le cas de l'industrie agricole. Au niveau de la classe de première année, par exemple, ça se pratique dans l'agriculture. Alors, nous avons un champ ou un jardin que nous organisons. On commence par le jardin en première année ou début de l'année et la pratique va se faire, par exemple, dans une ferme. Nos enfants qui sont ici vont faire leur pratique au niveau des jeux passés. Là, nous avons un terrain beaucoup plus vaste. Mais au niveau supérieur, là, les préparations qui se font dans les laboratoires, nous avons un laboratoire avec tout ce qu'ils vont produire. La coupe et couture, la pratique se fait dans l'atelier. Après l'atelier, je crois que nos enfants qui sortent de la coupe et couture sont bien préparés. Donc, partout, on les apprécie parce que la pratique est très, très régulière ici. On fabrique des tissus, on fabrique beaucoup d'histoires là. Et ces tissus-là sont pratiquement transformés dans nos ateliers. Et nous n'allons pas ailleurs. Nous les faisons chez nous dans notre école. La décision se fait à l'hôpital. Nous envoyons nos enfants dans les hôpitaux d'ici pour faire la pratique et les stages.
Que devient un élève qui obtient son diplôme dans votre école?
Cela dépend des ambitions des élèves et des parents. Nos élèves qui terminent ici, pour la plupart, ne s'arrêtent pas au diplôme d'État. Celles qui terminent, par exemple, la coupe de couture, vont tout droit à l'examen. Celles ou ceux qui font la nutrition également vont à l'université. Il y en a qui vont faire même la médecine et autres. En industrie agricole, là, nous avons un peu de problème parce que l'option n'est pas très connue dans notre pays. Mais ils vont tous à l'université, la première part. Bon, ceux qui s'arrêtent, ce sont des gens qui n'ont pas de moyens. Ils vont à l'atelier. Celles, par exemple, qui ont fait la coupe de couture, peuvent s'organiser en ouvrant un atelier à la maison. Bon, les autres qui ont terminé, par exemple, en nutrition, vont travailler à l'hôpital dans des centres de santé. Donc, on les prépare à ce niveau-là.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour former vos élèves?
Les difficultés, il y en a beaucoup. Ces difficultés sont liées toujours à nos structures. Hein. Les moyens, il faut se débattre pour attraper les moyens. Les équipements, il faut faire un effort pour avoir les équipements. Nous cherchons par ici, par là. Il faut s'adresser aux autorités, s'adresser à ceux-là qui nous gèrent. Les parents n'ont pas assez de moyens. La plupart des enfants que nous avons ici, lorsque vous faites des soldats, vous allez voir, ce sont des enfants qui viennent de familles pas vraiment riches. Il y a beaucoup de difficultés. Les parents payent difficilement les frais. Mais nous faisons des efforts. Il y a aussi une autre difficulté, c'est la jeunesse. Pour arriver à former, à donner une bonne discipline, nous souffrons parce que les enfants que nous accueillons viennent de diverses couches sociales avec beaucoup de problèmes. Chaque jour, nous en avons toujours. Nous avons aussi des cas des enfants qui sont, par exemple, des malades, des maladies que nous découvrons ici. Il faudra que l'école puisse s'en charger. Nous avons des cas d'équation corps, nous avons des cas épileptiques, nous avons beaucoup de cas ici. Les enfants sans parents, nous les avons ici, nous devons les supporter. Mais d'une manière générale, notre école, il y aura d'école et les enfants s'adaptent au niveau de l'école.
Est-ce que vous avez un message à lancer aux autorités du pays, aux enseignants, aux parents et aux élèves sur comment pousser les jeunes à s'intéresser et à s'orienter vers l'enseignement technique?
Oui, notre pays a besoin de techniciens. Le seul message que je lance, c'est vraiment celui-là. Par exemple, chez nous, au lycée de Limoumengo, nous n'avons pas assez d'élèves pour organiser la section industrie agricole. Pourtant, cette option-là est une option très importante. Et quand vous suivez ce qui s'est fait à l'extérieur, surtout en Europe, les gens-là sont très importants dans la société. Alors que chez nous ici, bon, l'option n'est pas vraiment encouragée, c'est-à-dire n'est pas connue. Nous sommes la seule école qui l'organise ici. Il faut que l'État nous encourage. Or, l'option est très importante. Jadis, on l'appelait industrie alimentaire. Maintenant, on a changé, on l'appelle industrie agricole. Elle est très importante, mais peu connue. Il faut que l'État puisse faire quelque chose de ce côté-là. Aux enseignants, nous demandons qu'ils aient cette volonté de continuer à former nos enfants. Malgré les difficultés qu'ils ont sur le plan social, tout ça. Les parents également, ils sont intéressés. Les parents encouragent leurs enfants à poursuivre ces études techniques. Aux jeunes, nous les encourageons à faire la technique. Hein. Jadis, on demande à nos enfants d'aller toujours faire le littéraire, et ainsi de suite. Mais moi, je trouve que la technique, c'est la base même de notre société aujourd'hui. Nous manquons les techniciens. On doit aller chercher à l'extérieur, en Europe, et ainsi de suite. Mais si on les formait ici, on n'aurait pas besoin de l'extérieur. Nous les encourageons. Au fur et à mesure que nous avançons, les autorités vont penser à eux. Nous avons des grands chantiers qui demandent qu'ils soient là, parce qu'ils manquent pas d'emploi. Lorsqu'on est technicien, on a un emploi.
Monsieur Richard Mukelenge Mungay, merci.
Je vous remercie.
Okapi, encore plus d'infos.
Pourquoi les jeunes se détournent-ils de métiers techniques? C'est entre autres la question que nous posons au professeur Bouiza Jean Damascène, philosophe et anthropologue socio-culturel. Pour lui, le constat est sans appel. Les parents ont une part de responsabilité dans ces désintérêts. Ils valorisent davantage les carrières administratives ou bureaucratiques, perçues comme plus prestigieuses et plus rémunératrices. Un choix qui, selon le professeur Bouiza, conduit à une pénurie de main-d'œuvre qualifiés et à des difficultés économiques et au chômage de jeunes. Ils nous ont dit plus au micro de Jeff Opella.
Professeur Bouiza, amicalement appelé Damas, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeff.
Professeur, pourquoi les jeunes s'intéressent moins aux métiers techniques?
Les métiers techniques dans notre pays ont été abandonnés depuis bien longtemps, ou bien n'intéressent pas depuis bien longtemps, parce que quand on parle surtout de l'éducation à la profession, on a donné beaucoup d'importance à des professions qui offrent directement du travail dans des bureaux. Donc la bureaucratie et l'administration ont dominé l'imaginaire pas seulement des jeunes, mais surtout au niveau des familles, des parents. Chaque parent voudrait voir son fils chaque matin en cravate, en veste, aller au travail. Dans un bureau, maintenant actuellement avec un bon ordinateur du banc. Et donc, c'est un peu l'image d'un jeune réussi. Aller travailler en banque, aller travailler dans telle administration, à la limite être un technicien ingénieur. Donc, voilà un peu ce qu'on a inculqué un peu dans les jeunes qui se sont réussis. Et celui qui fait ça, c'est celui le plus intelligent. Alors, s'orienter vers des métiers techniques a toujours été compris comme un secteur laissé aux non-intelligents, à ceux qui ont échoué à l'école. Et généralement, c'est ceux qui échouent double dans cette classe, ils échouent. Dans l'autre, pour passer d'autres classes, c'est difficilement qu'il ait réussi. Finalement, ce sont ces enfants-là qu'on oriente vers les métiers techniques. Alors, il faut aller faire la mécanique, il faut aller faire quelque chose pour devenir charpentier, menuisier, maçon. Et on a oublié que les métiers techniques, d'abord du point de vue de l'économie des pays, et ce sont les métiers techniques qui maintiennent l'économie de plusieurs pays. C'est dans le domaine technique qu'il y a moins de chômage. Les jeunes s'intéressent, de mon point de vue, trop à ce qui est bureaucratie et administration, parce que nous n'avons pas cette culture-là. Et ici, c'est depuis la colonisation, parce que il fallait être, comment dire, un civilisé. Les civilisés, c'était des gens du bureau, c'était des gens de l'administration. Et aujourd'hui, ça nous rattrape, parce que on a abandonné et on a pensé que les métiers techniques, ce sont les métiers des enfants qui ne réussissent pas à faire d'autres activités, entre guillemets, plus scientifiques. Voilà un peu ce que je peux dire pour commencer.
Les parents aujourd'hui orientent leurs enfants, comme vous venez de le dire, vers la bureaucratie. Mais quelles sont les conséquences aujourd'hui sur le plan social et surtout pour ces enfants-là qui n'avaient pas envie d'être médecin, avocat, peut-être mécanicien, électronicien, électricien, mais désorientés par leurs parents? Quelles sont les conséquences sur le plan social?
Alors, sur le plan d'abord personnel, avant d'aller au niveau social, sur le plan personnel, il y a beaucoup de jeunes qui font les choses pour plaire. Et à la fin, même dans l'administration, ils ne s'épanouissent pas parce que ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils ont fait juste parce que c'est ça la société demande, c'est là. Mais sur le plan social, nous nous sommes mis en retard sur beaucoup de choses. Sur le plan social, nous avons créé des grands problèmes de chômage que si nous pouvions mettre beaucoup d'accent sur les métiers techniques. Parce qu'en mettant d'accent sur les métiers techniques, on devrait professionnaliser notre enseignement et avoir plus de professionnels des métiers que des bureaucrates. Alors, comme je disais, sur le plan économique, c'est un manque à gagner, terrible pour le pays. Parce que finalement, nous tous, nous nous sommes déversés dans l'administration, dans la bureaucratie. Les jeunes, maintenant, ils sont de plus en plus désœuvrés. Alors que si nous voyons, par exemple, les jeunes qui sont dans la mécanique, ils sont moins chômés. Ils sont moins demandeurs de travail. Parce qu'il y a toujours un véhicule à réparer. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Quand nous voyons des jeunes qui font la mécanique, s'ils pouvaient être de véritables professionnels, ils peuvent imaginer innover au niveau de la menuiserie, par exemple. on aurait beaucoup de meubles. Et d'ailleurs, tous les jeunes qui sont dans ces domaines-là, ils s'en sortent mieux que beaucoup d'autres. Peut-être qu'on ne se rend pas compte parce qu'il n'y a pas peut-être d'études, des statistiques, tout ça. Mais quand nous voyons dans la réalité, les jeunes qui sont rien dans les métiers et qui trouvent des ateliers qui les prennent en charge, ils finissent par créer d'autres propres ateliers, qui viennent devenir des entrepreneurs. Malheureusement, ce ne sont pas des métiers encadrés. Des métiers où on a des formations aussi, par exemple une formation en entrepreneuriat, où on peut avoir son propre atelier de menuiserie et l'organiser comme une petite moyenne entreprise et entreprendre dans ce sens. Donc, sur le plan social, c'est beaucoup de manque à gagner du point de vue économique et surtout du point de vue du travail. Parce que l'administration ne peut pas nous contenir tous. Tous les jeunes ne peuvent pas devenir des avocats, tous les jeunes ne peuvent pas devenir des médecins, tous les jeunes ne peuvent pas devenir, je ne sais pas, des banquiers. Et ça, c'est une élite aussi qui doit être pas massive comme maintenant. La masse doit être au niveau des métiers, parce que c'est là où on génère aussi les richesses. Et ce sont ces richesses générées au niveau des métiers qui devraient prendre en charge aussi et l'administration et tous les autres professions, entre guillemets, d'élite. Mais la base d'une société, c'est vraiment les métiers, c'est la technique, c'est l'agriculture. Et on devrait davantage orienter les jeunes là-bas.
Donc on comprend, professeur, qu'il y a pénurie de main-d'œuvre qualifiée, difficultés économiques également, chômage des jeunes. Mais quelle action pourrait être entreprise pour changer les mentalités et valoriser l'enseignement technique dans notre pays?
Alors, dans notre pays, moi j'évolue plus au niveau de l'enseignement universitaire, supérieur et universitaire. Et je suis en train de voir comment la réalité nous rattrape. Actuellement, avec le système LMD, on voudrait que tous nos enseignements soient des enseignements professionnalisants, des enseignements qui sont liés directement au métier, surtout avec le premier cycle qu'on appelle actuellement les cycles de licence. Mais avant de venir à l'université ou à l'université supérieure, on devrait avoir beaucoup d'écoles qui rentrent directement dans les métiers. C'est ça qu'on est en train de voir avec ce qu'on appelle l'INPP, je pense, l'Institut national et même au niveau du gouvernement, il y a tout un ministère qui est concerné, qu'on a détaché du ministère de l'Éducation nationale. Donc l'éducation, il y a un ministère de, je ne sais pas si je ne me trompe pas, il y a de profession, quelque chose comme ça. Donc, on devrait avoir beaucoup d'institutions comme ça, après l'école secondaire, après les humanités. Et même les humanités devraient déjà être orientées vers les métiers. Et que donc, si au niveau déjà de l'éducation, on montre de l'importance, et ça devient une éducation aussi pratique, où on a des écoles secondaires en pêche, des écoles secondaires en agriculture, des écoles secondaires à menuiserie, à mécanique, et qu'on devient des lieux où on promet la pratique et pas seulement des théories, déjà on peut attirer les jeunes. Et montrer aussi les jeunes que la réussite, ce n'est pas en allant à l'université nécessairement. La réussite, ce n'est pas en allant, c'est pas à faire tel autre travail. Non. Et puis, au niveau des universités aussi, on devrait limiter. Si notre université cesse d'être une université de masse, peut-être, au lieu qu'on puisse recevoir beaucoup de jeunes à l'université, on devrait déjà orienter beaucoup de jeunes à des institutions ou des instituts de métiers, au lieu de venir perdre le temps à l'université 5 ans, et parfois plus, et après on reste chômeur, alors qu'on pourrait aller apprendre un métier, être professionnel dans un métier, et gagner comme il faut sa vie. Donc, c'est aussi une politique, genre de politique que l'État doit penser et appliquer pour que l'université reste quelque chose, moi je dirais un peu de l'élite, mais que la société prenne en charge davantage les jeunes à partir des métiers. Et des lieux de préparation à ces métiers doivent être des lieux bien équipé pour un bon encadrement de la jeunesse.
Et voilà, merci professeur Bouiza.
Je rappelle que vous êtes philosophe, sociologue et anthropologue culturel.
professeur des universités. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup.
Que l'enseignement technique fait face à plusieurs défis. Des efforts sont fournis au niveau du gouvernement, mais cela doit continuer pour que ces domaines attirent la jeunesse. Nous en parlons avec M. Rigobert Matondonguela, expert en éducation et formation, coordonnateur national en charge de l'éducation et de la formation dans la Fédération nationale des éducateurs sociaux du Congo, FENECO UNTC. Il s'entretient à ce sujet avec Rachel Kessembangou.
Monsieur Rigobert Matondonguela, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état actuel, selon vous, de l'enseignement technique dans le pays? Quels sont les défis auxquels l'enseignement technique fait face actuellement?
L'enseignement technique dans notre pays, la République démocratique du Congo, se trouve à un carrefour confronté à des défis structurels, nécessitant ainsi une mise à jour des réponses aux besoins d'une économie en évolution. Et donc, il y a vraiment des efforts qui sont fournis par le gouvernement, mais ces efforts doivent continuer pour que notre système d'enseignement technique puisse encore évoluer. Donc, dans l'enseignement technique à la République démocratique du Congo, nous avons beaucoup de défis importants
notamment
qui se présentent. Également, nous avons des opportunités de développement que nous pouvons aussi voir dans ces défis. Donc, quelques aspects, par exemple, nous avons les défis des infrastructures et de l'accès. Donc, les infrastructures des écoles techniques sont souvent insuffisantes. De nombreux établissements manquent de matériel adéquat qui limitent aussi la capacité des apprenants à acquérir des compétences pratiques. L'accès donc à l'éducation technique peut être également inégal compte tenu des disparités selon les zones urbaines et les zones rurales. Nous avons encore d'autres défis comme le curriculum. Donc le programme de l'enseignement technique nécessite normalement une mise à jour pour répondre aux besoins du marché du travail. Il est donc important d'intégrer les compétences techniques modernes, notamment dans les domaines informatiques, dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement, pour que ces programmes puissent réellement répondre aux besoins. Nous avons encore un autre défi, c'est par rapport à la formation des enseignants. La qualité de l'enseignement est souvent liée à la formation des enseignants. Là, nous voyons la formation initiale et la formation continue. Donc, il est crucial ou important que la formation continue des formateurs et de la qualité professionnelle puisse être prise en charge par le gouvernement, mais aussi pour que cette formation puisse s'adapter réellement aux besoins de la société. Donc ça, c'est très important par rapport à tout ça. Il y a également la collaboration qui doit régner entre le secteur privé. Là aussi, il y a un problème parce qu'il y a un besoin croissant de partenariat entre les institutions d'enseignement technique et les secteurs privés pour aligner la formation sur les besoins du marché. Donc, ça aussi, nous savons que le gouvernement du travail, il doit encore ajouter plus pour que les choses puissent aller de l'avant. Il y a encore un autre défi, notamment les initiatives du gouvernement au niveau national et international. Le gouvernement congolais collabore avec les organisations internationales. Mais ils doivent mettre en place des programmes pour améliorer l'enseignement technique. Ces initiatives visent alors à renforcer les compétences des jeunes et favoriser l'emploi. Il y a aussi un problème de la société, mais aussi de l'économie. Nous sommes en train de voir qu'il y a une catégorie de gens qui sont souvent pauvres et qui ne peuvent pas accéder aux études techniques faute de moyens. Et là, nous sommes en train de voir qu'il y a un problème de financement. Le financement de l'enseignement technique est tellement limité, quoique l'enseignement technique demande beaucoup d'argent pour avoir des ateliers, avoir des infrastructures dignes qui doivent nous amener, n'est-ce pas, au développement des compétences des apprenants.
Vous êtes revenu sur les défis et quelles en sont les opportunités, justement?
Également, vraiment, les opportunités que nous avons, c'est que, d'abord, un, le gouvernement fait un effort pour que l'enseignement technique puisse être mis à niveau. Il y a eu, par exemple, au niveau du ministère de la formation professionnelle, la création des centres de formation. Ça, ce sont des opportunités que nous avons déjà. Il y a aussi des réformes curriculaires, mais ces réformes doivent être adaptées pour que le travail puisse vraiment tenir compte des défis, mais aussi des besoins. Il y a aussi l'opportunité du secteur privé que nous avons. Nous avons un secteur privé qui est vraiment adapté. Si seulement on pouvait collaborer avec ce secteur privé, nous pouvions vraiment également parler d'un très bon partenariat et que le développement de l'enseignement technique puisse aller déjà de l'avant. Il y a aussi le formateur qu'on peut trouver au niveau national, mais aussi au niveau international. Donc, dans la collaboration, dans la coopération, nous pouvons aussi profiter de ces compétences que nous avons qui peuvent faire en sorte que la formation continue, mais aussi initiale, puisse être au rendez-vous. Il y a un problème de digitalisation aujourd'hui de la formation. Presque partout, il y a déjà la digitalisation. Donc ça, c'est aussi une opportunité que nous avons qui peut faire en sorte qu'on peut saisir pour que l'enseignement technique puisse aller de l'avant. Il y a aussi l'opportunité de l'orientation scolaire au niveau, par exemple, de l'éducation de base. Il y a aussi cette opportunité de TENASOSFE qui peut venir pour essayer d'orienter les jeunes qui peuvent embrasser, n'est-ce pas, l'enseignement technique. Donc, il y a autant d'opportunités que nous avons à saisir pour que notre enseignement technique puisse se développer.
Et est-ce que les entreprises peuvent avoir un rôle à jouer dans la promotion de l'enseignement technique auprès des jeunes?
Effectivement, oui. Je disais que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer pour la promotion de l'enseignement technique parce que ils connaissent les besoins de la... Ces entreprises peuvent collaborer avec les enseignants et les futurs enseignants. C'est-à-dire ils peuvent aller, ils peuvent provoquer de stages et ces stages peuvent nous amener, n'est-ce pas, à maîtriser les compétences, à développer les compétences pratiques au niveau de notre enseignement. Donc, les entreprises sont vraiment les bienvenues dans cette collaboration et dans ces partenariats.
Qu'est-ce qui peut être fait au niveau de l'orientation scolaire pour mieux informer les jeunes sur les filières techniques et les débouchés possibles?
Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'il y ait d'abord une sensibilisation au niveau de l'éducation de base. Donc, les enfants, par exemple, qui sont en 7e et 8e, doivent être sensibilisés pour que, lorsqu'il y a l'orientation, qu'on puisse savoir quelle est l'importance de chaque filière que je peux entreprendre. Donc, ça, c'est très important. Également, il y a une sensibilisation qui doit être faite au niveau des jeunes, mais aussi au niveau même des parents, qui peuvent aussi essayer d'expliquer aux jeunes l'importance de telle ou telle filière qu'on peut embrasser pour qu'on devienne utile à la nation. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une bonne collaboration entre l'enseignement technique et l'éducation de base, d'une part, mais entre l'enseignement technique et la société d'autre part. Donc, il faut dire qu'il y ait des sensibilisations et des orientations nécessaires pour que les gens comprennent l'importance de chaque sujet.
Et selon votre constat, est-ce que l'enseignement technique intéresse vraiment ou attire vraiment du monde?
Oui,
les jeunes en particulier.
L'enseignement technique n'attire pas encore vraiment du monde parce que il y a moins de sensibilisation. Les gens ne connaissent vraiment pas l'importance de cela. Et il y a aussi un problème, par exemple, des certifications. Les gens aiment avoir dire, donc j'ai fait l'examen d'État, et à partir de mon examen d'État, je peux faire l'université, je peux faire ceci. Mais dans l'enseignement technique, il y a aussi ce problème de connaissance, hein, de manque de reconnaissance de la qualification qu'on peut donner par-ci, par-là. Et donc, il faudra que cela puisse être vraiment pris à bras le corps pour sensibiliser les gens, pour que réellement les gens puissent venir nombreux, notamment les femmes. Nous avons besoin aussi que les jeunes filles puissent aussi accéder nombreuses au niveau des filières techniques. Et donc ça, il y a un travail qui doit être fait pour que ces jeunes puissent être sensibilisés et savoir qu'il n'y a plus de métier d'hommes, il n'y a plus de métier réservé aux femmes seulement. Mais hommes comme femmes, garçons comme filles, ils peuvent avancer ensemble, ils peuvent apprendre le métier, ils peuvent aller faire des études techniques et ils seront aussi utiles à la nation et utiles aussi à eux-mêmes.
Nous allons finir par là. Y a-t-il des perspectives au niveau du ministère de la formation professionnelle pour mettre en place des méthodes pédagogiques innovantes et adaptées aux jeunes d'aujourd'hui?
Oui, je pense qu'il y a des perspectives.
Lesquelles?
Comme nous avons dit qu'il y a des choses qui se passent, alors au niveau du ministère de la formation professionnelle, il y a les méthodes actives et participatives qu'ils utilisent avec compétences, qui met l'enfant devant des situations et que l'enfant est capable de traiter ces situations pratiquement en utilisant les facs ou les matériaux nécessaires à sa disposition. Donc aujourd'hui, ces méthodes actives et participatives, ces approches pédagogiques innovantes, notamment l'approche par compétence, mais aussi l'approche par situation, ce sont des approches pratiques que l'État utilise, a déjà adoptées, et que maintenant il est question seulement que les enseignants formateurs puissent réellement pratiquer ces méthodes. Ils doivent être donc bien rodés, bien formés pour que l'enseignement soit réellement pratique et qu'on arrive à trouver les meilleurs de ce qu'on cherche, notamment résoudre les problèmes de la vie, mais aussi répondre aux besoins de la société. Voilà comment nous pouvons améliorer notre enseignement technique.
Monsieur Rigobert Matondonguela, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Vous l'avez compris, c'est la fin de votre magazine Bano Capi de ce jour. Nous avons été honorés de passer ces 90 minutes à votre compagnie parlant de la jeunesse et l'enseignement technique. Comment redonner ces lettres de noblesse à l'enseignement technique en RDC? Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net et sur la page Facebook Bano Capi. Nous disons merci à toute l'équipe Bano Capi. La coordination a été assurée par Christian Mapenda Noya Chris sous la supervision de Jean-Marc Omatoki Mofelele Dijano. Alain Goyeté à la mise en onde, je suis Sarah Sombela. Je vous dis à très bientôt.